Excellent. Donc, on va tourner vers d'abord l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, et on va commencer à verset 11. Ézéchiel 34, verset 11. On va sauter quelques passages et on va lire jusqu'à 31. Donc, ça va être le premier passage pour nous aujourd'hui. Alors, Ézéchiel 34, 11. Ça commence avec Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés, au jour des nuages et de l'obscurité. Et là, on saute à 20, verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Et à la fin, 30 et 31. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elle, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Jusqu'à ici, la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Alors, notre passage ce matin commence avec une parole très réconfortante. Et termine aussi avec une parole très consolante. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Et à la fin, nous lisons, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, c'est un message en général très réconfortant et consolant pour les gens à l'époque bien sûr, Ézéchiel, hein, à l'époque d'Israël dans son temps, mais j'espère avec l'aide du Seigneur aussi pour nous aujourd'hui, que Dieu nous fait comprendre ce passage aussi pour nous aujourd'hui. Alors, c'est une parole qui nous parle. Comme c'est parlé au temps d'Ézéchiel. Et d'abord, comme d'habitude, je vais aborder quelques pensées par rapport au contexte. Okay? J'aime d'abord le contexte et après, on va traiter le texte en question. Parce qu'on peut se demander une parole réconfortante, pourquoi? Hein? Un message consolant, pourquoi? Et pour répondre à cette question, nous devons premièrement donc poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Ézéchiel? Qu'est-ce qui s'est passé du temps d'Ézéchiel? Et nous voyons, quand on regarde le texte, et donc surtout le contexte, que les Israélites, les brebis d'Israël, étaient traités d'une manière contre les Écritures par des faux bergers. Comme on voit clairement dans ce contexte, Israël était dirigé par des bergers qui n'étaient bergers, pasteurs, que pour leur propre gain. C'est le contexte. On n'a pas lu ce passage, mais c'est juste avant. Et donc, dans le verset 2, verset B, le même chapitre, la parole nous dit « Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait est qu'ils n'avaient nourri qu'eux-mêmes. Ils étaient dans leur ministère que pour eux-mêmes. Ils ont mangé et ils s'habillaient même avec les choses, les habits, qu'eux, ils ont pris plutôt du troupeau. Et donc, ils étaient, on peut dire, des opportunistes plutôt, dans leur office. Ils ont utilisé leur office, leur position, même contre le troupeau, contre les Israélites. Hein? Nous le voyons, verset 3, « Vous en mangez la graisse et vous vous habillez de la laine. Vous tuez ce qui est gras et vous ne paissez point le troupeau. » C'est une situation donc dure et grave. En gros, ce que nous voyons, c'est que les pasteurs, et juste un, les pasteurs, juste un petit exercice, un excursus, excusez-moi, excursus, les leaders d'Israël, donc, étaient responsables de cette situation. Dieu les confronte parce que ce qu'ils ont fait dans leur position. Les dirigeants installés dans leurs offices étaient donc responsables pour le troupeau. Ils étaient responsables pour Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, il s'adresse à eux à travers le prophète. Hein? Donc, dans un ordre que Dieu lui-même a établi. Hein? Il va respecter l'ordre qu'il a établi au milieu de son peuple. Et là, on peut dire, donc, en voyant, nous dirions donc aujourd'hui qu'ils étaient devenus des opportunistes dans leur position. Au point même de se nourrir du troupeau qu'ils devaient nourrir pour leur propre gloire et pour leur propre bien. On saute vers le Nouveau Testament parce que Christ a dit quelques mots là-dessus. On va revenir au texte. Christ les compare à des mercenaires. Les mercenaires qui ne le font que pour l'argent. Ils sont dans une position à l'intérieur de l'Église et qui n'ont donc aucun amour réel pour l'Église, dans le fond, que dès qu'un loup apparaît, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fuir. Ils font les mercenaires fuient. Jean 10, verset 12 jusqu'à 13. Et ils vont laisser les brebis exposées aux bêtes. Donc, ce sont des mauvais pasteurs. Et quel en fut le résultat? Nous poursuivons notre lecture. À cause de tout cela, mes amis, les brebis ont terriblement souffert, comme nous pouvons aussi l'imaginer, n'est-ce pas? Ceux qui étaient faibles ne furent pas fortifiés. Verset 4. Ceux qui étaient malades, on n'en prit pas soin. Ceux qui furent blessés, on ne pense pas leur plaie. Et au lieu de cela, on régnait sur le brebis avec force et cruauté. Verset 4. Dans une verset, le passage nous dit ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas fait pour le troupeau. De plus, au bien tragique, à cause de tout cela, les brebis s'étaient dispersées dans les montagnes. Okay? Ils étaient seuls, comme des brebis sans berger, comme un troupeau sans personne pour s'occuper d'eux. Personne. était là pour eux. Personne même les cherche, versets 5 jusqu'à 6. Et elles ont été dispersées par la 17 des pasteurs. Et elles ont été exposées à toutes les bêtes des champs pour en être dévorées, étant dispersées. Mes brebis ont été errantes par toutes les montagnes, la Bible dit. Mes brebis ont été dispersées sur tout le dessus de la terre. Il y a eux personne qui les rechercha. Et il y a eux personne qui s'en enquitte. Quelle situation grave, quelle situation déplorable du repos du troupeau du Seigneur. C'était la situation, une tristesse inouïe. Et cela à cause des faux bergers, des bergers opportunistes qui, au lieu de donner leurs moyens d'existence pour le bien de leurs brebis, ils leur ont enlevés, les laissant seuls sur les collines, sans direction, sans aide, sans unité, sans soin. Est-ce que peut-être vous avez senti parfois la même chose, que vous étiez laissé seul, dispersé sur les montagnes, même utilisé pour le bien des autres, mais pas servi par les gens qui étaient en charge de vous, à l'extérieur de l'Église, mais aussi et surtout à l'intérieur de l'Église. Peut-être ça peut être le cas avec vous et peut-être avec nous aujourd'hui. Mais c'était quoi la réponse de Dieu? La réponse de Dieu. Mais et voilà la merveille de ce passage. Au milieu de cette situation, le Seigneur proclame un message, se tient lui-même debout. Nous lisons, « Je suis vivant, je réclamerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus faire paître mes brebis. » Quel réconfort! Et donc, on va aborder trois points à partir de ce verset. Donc, notez, au milieu de cette situation, comme Ézéchiel le signale, premièrement, Dieu promet de s'occuper lui-même de ses brebis. Si tous les bergers ont peut-être fait des erreurs, mais plus, ont mangé les biens de leurs brebis, ont utilisé les brebis pour eux-mêmes, Dieu se lève et Dieu dit, j'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus un proie pour eux. Quel réconfort, verset 10. Alors, Dieu les confronte, Dieu les tient aussi et Dieu les garde responsables pour ce qu'ils font ou pour ce qu'ils font pas. Dieu va juger parmi les juges. Dieu va juger parmi les responsables de son Église. Dieu va prendre soin de son Église. Comme toujours, dans le passé jusqu'à la fin. Et Dieu les traite aussi comme des responsables. Encore une fois, juste pour mettre l'emphase là-dessus pour nous aujourd'hui, Dieu respecte l'ordre qu'il a établi. Il parle aux responsables pour les juger. OK? Et ensuite, il va aussi, donc il a aussi jugé les troupeaux, les brebis. Deuxièmement, et ici nous nous rapprochons de notre texte également, ce n'est pas tout. Car merveille des merveilles, Dieu promet de se tenir lui-même debout, pas juste pour les enlever des mauvais pasteurs, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin du troupeau. Il va les arracher des faux bergers et il va prendre soin de son troupeau. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Est-ce que ce n'est pas un réconfort? Est-ce que ce n'est pas consolant? Que Dieu va prendre soin de son troupeau. Et finalement, comment? Dieu élèvera lui-même un berger. Donc, il va faire fuir les faux bergers, il va prendre soin de ses brebis, et qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va le faire? Il va élever lui-même un berger. Donc, verset 23, « J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David, et il les fera paître. Il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Wow! Dieu prend soin de ses brebis. Voilà la réponse souveraine de Dieu. La réponse juste de Dieu, mais aussi la réponse gracieuse de Dieu. Il est là au milieu de son peuple. Permettez que je m'arrête ici un instant et méditons les richesses et le réconfort de cette parole, de cette réalité que Dieu promet à son peuple. Notez que Dieu dit, premièrement, « mes brebis ». Ça, c'est aussi significatif. C'est réconfortant, c'est consolant. À la fin de la journée, même s'il y a beaucoup de faux prophètes et des bergers opportunistes, Dieu les appelle ses brebis. Les brebis appartiennent à lui. Ça, c'est un réconfort. Et ils ne peuvent défaire ce que Dieu a établi. L'Église est son Église. Les brebis sont ses brebis et personne ne sera capable de les enlever de ses mains. C'est la même chose que Jésus a dit dans Jean 17, verset 12. Hein? Les brebis que le Seigneur a données à lui, ça veut dire le Dieu, le Père, ils vont rester les brebis de Jésus. Et il va les sauver, racheter, il va les garder entre ses mains. Donc, c'est un réconfort. Donc, mes amis, Dieu a aimé ses propres brebis depuis l'éternité et ils ne se perdront pas, mais ils seront sauvés. Ils ne demeureront pas éparpillés, même dans les pires moments, dans les pires circonstances. Il va prendre soin de lui. Non, il se tiendra debout et rassemblera les siens dans sa bergerie. Car ce sont ses brebis, les brebis de Dieu. Dieu prendra soin de ses siens. Ce que les faux bergers n'ont pas fait, lui le fera. On appartient à lui. Voilà ce que nous lisons ici dans ce passage. Deuxièmement, on va aller un peu plus loin. Ce que nous lisons de plus dans ce passage, c'est qu'il n'a pas seulement élu une église. Ça veut dire que ce sont ses brebis, mais, et là, ce qu'on a déjà vu aussi, il enverra un seul berger pour les délivrer. Et il appelle quoi? Il s'appelle quoi? Mon serviteur David, qu'il considère égal à lui-même. Alors, le verset 24, « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Alors, c'est donc un cas d'une interprétation aussi. Quoi faire avec ce verset? Quand il fait référence à « mon serviteur David », qu'il considère égal à lui-même. « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parler. Je pense que la signification de ce verset, et on peut dire, est-ce que ce n'est pas une référence au futur Messie, promis, l'homme-Dieu venu du ciel qui deviendra un berger pour ses brebis, afin de les délivrer de la peur, des ténèbres et du désespoir, d'en prendre soin dans l'amour. Oui, c'est vers lui qu'Ézéchiel signale ici, comme un message de grand espoir dans une situation apparemment désespérée, au milieu d'un peuple qui n'a pas de berger, qui prennent réellement soin d'eux, blessés, brisés, perdus sur les collines. C'est vers lui qu'Ézéchiel signale comme un rayon d'espoir pour le sombre horizon de leur existence. Dieu lui-même se tiendra debout, descendra et délivrera les siens. Voilà le message d'espoir qu'Ézéchiel peut prêcher à ses contemporains. Ils ne seront plus essulés sur les collines, seuls sur les collines, comme des fugitives ici-bas sur la terre, mais Dieu lui-même les cherchera, apparaîtra comme le plus grand serviteur de David. Et là, je fais, parce que peut-être tu dis, mais c'est une imposition au texte. Ça veut dire que peut-être c'est une référence plutôt à un roi qui est pareil à David, qui sera le serviteur de Dieu. Mais il y a des commentateurs qui disent, et je pense qu'ils ont raison, que le passage qu'on a lu aujourd'hui, c'est un commentaire, une élaboration plus poussée de la courte prophétie de Jérémie 24, versets 1 jusqu'à 8. Jérémie a dit quoi? Et je vais lire juste 5 et 6 de ce passage. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David. » Quoi? « Un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est exactement le même contexte. Donc, les versets qui précèdent 5 et 6 disent exactement la même chose que notre passage signale. Les faux bergers, les brebis d'Israël étaient traitées d'une manière contre les Écritures, contre la volonté de Dieu. Et alors, dans cette situation, voilà la réponse de Dieu. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David. » Et la phrase le plus important, c'est bien « un germe juste ». Donc, qui va apparaître à travers David? C'est le germe juste. Et le germe juste fait référence à, je suis sûr, à Jésus-Christ. Donc, tu vois les deux passages, il faut les lire ensemble. Et le nom est quoi? Et ça, c'est une consolation pour nous aujourd'hui, encore une fois. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel a suscité son serviteur David comme un berger pour Israël en envoyant Jésus-Christ. L'Éternel, notre justice. Nous voyons dans le Nouveau Testament, Jean 1, 11, verset 14 et 14 jusqu'à 15, « Je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Est-ce que ça, ce n'est pas l'Éternel est ma justice, l'Éternel notre justice. Voici le germe juste de David qui est venu et qui a pris la place de son peuple, qui a pris la place de son peuple sous la condamnation du péché, à cause du péché. La condamnation de la loi, c'est Christ qui a pris notre place, mais et qui a porté les péchés et qui les a mis dans son tombeau. Pour qu'on puisse aussi vivre une vie nouvelle. Ça veut dire qu'il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. L'éternel, notre justice. C'est Jésus-Christ. Jéhovah Tsidkenu. Jésus, notre justice. Quel réconfort. Dieu a pris soin de son troupeau, de A à Z. Il a pris la place de ses brebis. Et il les a donnés, il les donne une vie nouvelle. Frères et sœurs, ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a suscité un bon berger. Et le bon berger est venu. Le bon berger aussi est parmi nous ce matin. Ça fait le lien avec le passé et aujourd'hui. Hein? L'accomplissement de ces paroles par Jésus-Christ nous réconforte, nous console. Et il est parmi vous comme notre justice, l'éternel, notre justice. Et peut-être vous pensez encore, mais tu vas trop loin. C'est une imposition au texte. Non. En Marc, juste pour vous donner une autre référence, Marc 6, verset 34. Et là, tu vois le bon berger. Le bon berger qui est concerné de ses brebis. Nous lisons, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, le cœur de l'Éternel, notre justice? Il est venu et qu'est-ce qu'il a vu? Comme à l'époque d'Ézéchiel. Les brebis étaient dispersées sur les collines. Les brebis étaient sous les bergers, sous les faux bergers qui ont pris plutôt les biens pour eux-mêmes, qui étaient plus des opportunistes que des bons bergers. Et il est venu au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'est-ce qu'il a senti? Nous voyons le cœur de notre Seigneur ici. Et il fut ému du compassion. C'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Peut-être vous vous trouvez seul ce matin. Vous vous trouvez peut-être dispersé sur les collines. Peut-être vous vous trouvez oublié par les bergers. Peut-être même par moi. Je vais vous dire cela ouvertement. Et c'est pas, on va parler des anciens aussi un peu plus tard. Mais il est ému. Il était ému. Il était plein de compassion. Il a vu les brebis et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Frères et sœurs, il est encore parmi nous avec un cœur comme un bon berger, comme il était à l'époque. Alors, c'est l'Ancien Testament, ça nous a amené au Nouveau Testament et maintenant aussi une exhortation pour les pasteurs aujourd'hui, des sous-bergers. Alors, on fait le lien parce que ce que nous avons vu, c'est sûr qu'un ministère chrétien commence par celui de Christ. Hein? Les faux-bergers, Dieu a pris soin de ses brebis, il a envoyé le bon berger, c'est Christ lui-même. Mais en même temps, et ça fait le lien aussi avec le Nouveau Testament ce matin, Christ a souhaité que nos ministères continuaient ou continuent à représenter son ministère dans le monde. Alors, encore une fois, comme dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il fait pour son Église? Oui, il est au milieu de son Église, mais qu'est-ce qu'il a fait dans le passé et qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Il va choisir les représentants de lui pour diriger le corps de Christ. Comme c'était dans l'Ancien Testament, c'est aussi vrai pour le Nouveau Testament. Okay? Donc, dans le passage qu'on va, commenter aussi ce matin, c'est clair. En vue de tout cela, lisons ce que Pierre a écrit en 1 Pierre 5, verset 1 jusqu'à 4, et un peu plus tard. Aussi, on va voir 5 jusqu'à 11. Là, Pierre fait une exhortation. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dieu est un Dieu d'ordre. OK? Comme il était dans le passé, bon ou faux berger, il a toujours utilisé les bergers, les offices, les gens installés pour diriger le troupeau. C'est Dieu qui a choisi de le faire de cette manière. Il a envoyé les représentants pour gérer le troupeau. Ça, c'est sûr, c'est clair. Il n'y a pas de question. Et Pierre, il s'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Il y a une distinction, vous comprenez? C'est important de comprendre. Il y a des offices qui sont mis à part, ceux qui sont installés dans un office comme des responsables du troupeau, comme des responsables des brebis. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas une anarchie ou ce n'est pas une démocratie qui peut devenir une démocratie plutôt. Souvent, aussi dans les églises, ce n'est pas anarchique. Non, Dieu aime un ordre et il s'adresse à ceux qui étaient mis au-dessus ou pour diriger le troupeau. Comme une collégialité. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? J'adresse aux anciens, pluriel, qui sont parmi vous, donc un statut différent. Moi, ancien comme eux. Donc, Pierre, l'apôtre, il se met au même niveau que les anciens. Est-ce que ce n'est pas remarquable? C'est sûr qu'il était un apôtre, n'est-ce pas? Mais il dit, non, je suis au même niveau que les anciens qui sont parmi vous. Et donc, les exhortations que je vous donne sont aussi des exhortations que je dois reconnaître et que je dois pratiquer, c'est sûr, parmi vous, parmi eux. Alors, et là, il va spécifier les qualifications. Alors, là, il va dire « témoin des souffrances de Christ ». Donc là, bien sûr, il parle d'abord de lui-même, non? C'est Pierre qui a vécu avec Jésus les souffrances de Jésus. Hein? Et ça terminait sur la croix. Il était témoin des souffrances de Christ. Et comme Pierre, parce qu'il est un ancien parmi les autres anciens, qu'est-ce qu'un ancien doit aussi apprendre ou expérimenter? D'abord, s'attacher avec une vraie foi à Jésus-Christ, le bon berger. OK? Parce que eux, ils sont des sous-bergers. Hein? Christ est le berger, on va voir à la fin du passage. Mais les sous-bergers doivent donc être attachés et doivent se rattacher à Jésus-Christ constamment et pour toujours. Pourquoi? Pour expérimenter aussi les souffrances avec lui. Il était témoin. Donc, un ancien doit être un témoin. Tu dois être capable de demander à un ancien parmi nous « Qu'est-ce que toi, tu as vécu avec le Seigneur Jésus-Christ ?» Et s'il n'y a rien qui peut répondre, ce n'est pas un candidat. Il faut avoir expérimenté même les souffrances avec Jésus-Christ, et s'attacher à la foi chrétienne de l'Église, mais est participant de la gloire qui doit être manifestée. Les deux, ok, c'est important. Qu'est-ce que Pierre a aussi vécu pendant sa vie avec Jésus-Christ? Transfiguration. Donc, il a vécu Jésus dans sa gloire, mais il a aussi vécu Jésus dans sa souffrance sur la croix. C'est aussi nécessaire que les anciens ont, eux, cette expérience de la souffrance de Jésus, mais aussi de sa gloire, de la présence de Jésus dans leur vie. Et de cette manière, ils sont devenus ou ils sont des ambassadeurs de Jésus parmi le peuple de Dieu. Tu ne peux pas être un ambassadeur de quelqu'un que tu ne connais pas, hein? Non? Tu ne peux pas être un ambassadeur d'un roi que tu ne connais pas, que tu n'as pas vécu. Tu dois défendre même ce roi ou ce pays devant et à l'intérieur d'un autre pays. L'autre pays, c'est le monde. Nous nous trouvons dans ce pays, encore dans le monde. Et nous sommes, donc, comme des anciens, des ambassadeurs de Christ au milieu de son peuple, au milieu de ce monde. Alors, c'est important, la souffrance, mais aussi la gloire en tant qu'ambassadeur de Christ parmi nous, parmi vous. Trois, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc là, il va d'abord les ancrer dans et en Christ. OK? C'est fondamental. Un ancien doit être ancré dans le Christ, la souffrance et la gloire. Mais maintenant, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est une délégation d'une responsabilité aussi. OK? Et c'est sûr que Dieu va revenir à nous, les anciens, pour dire que qu'est-ce que vous avez fait avec vos responsabilités. Et nous serons encore plus durement et sévèrement jugés. Donc, anciens parmi nous, savez-vous que nous serons plus jugés que les autres? On se place devant le Seigneur pour être jugés plus sévèrement. Okay? C'est important. Aussi, une exhortation sous votre garde. Et contraire à ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, non par contrainte, mais volontairement. Hein? Est-ce que vous êtes poussé dans l'office par un autre? Est-ce que c'est un jeu de pouvoir? Est-ce que c'est la politique qui règne parmi nous ou non? Hein? Souvent, c'est la politique qui règne, aussi à l'intérieur de l'Église. Non, volontairement, hein? Selon Dieu, encore une fois, selon Dieu, être capable de diriger le peuple de Dieu d'une manière spirituelle et pastorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement, Actes 20, verset 17 juste et suivante. Qu'est-ce que Paul a dit et qu'est-ce que Paul a fait? Il se fait comme un exemple pour aussi les autres. Alors, ce sont les exhortations pour vous, anciens parmi nous, ou ceux qui seront votés parmi nous pour être anciens. Qu'est-ce qu'on est dû faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut visiter et rencontrer les gens. Un pasteur qui se trouve dans son tour quelque part, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien. Il doit se trouver au milieu de son troupeau. Il faut les rencontrer continuellement. Il faut qu'on les visite continuellement. Acte 20, verset 17 et suivant. C'est ce que Paul a fait. Hein? Il faut connaître leurs besoins en parlant avec les brebis. Ce n'est pas un état au-dessus et donc on n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre les gens, quand on visite les gens? Il faut partager la parole avec eux. C'est ce que Paul a dit dans ce passage. Il faut être capable de donner des exhortations par rapport à la parole dans leur situation à eux, les conseiller selon les paroles de Dieu, selon le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on doit aussi faire ou être capable de faire? De rentrer dans leur souffrance et souffrir avec les brebis. Ça, c'est aussi une exigence pour les anciens. Est-ce que vous êtes prêts de souffrir avec les brebis pour obtenir finalement aussi la couronne? Christ a souffert avec ses brebis. Il a souffert pour ses brebis. Il a pris leur place. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir avec les brebis? Frères et sœurs, c'est une exhortation, pas de moi, mais de Dieu. Selon Dieu. Et finalement, les amener vers Christ pour aussi obtenir une couronne éternelle. Et de tout cela, on continue le texte. Non pour un gain sordide. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Les faux bergers ont fait quoi? Tout ça pour eux. Même. Ils étaient des opportunistes. Frères et sœurs, l'opportuniste se trouve devant toi ce matin. C'est dans mon cœur. Ah, je veux le statut, je veux le pouvoir, je veux la reconnaissance. Et eux, ils vont payer pour moi. Ça, c'est mon cœur méchant. Mais que Dieu me donne la grâce pour être un bon berger. Dieu me pardonne mes péchés devant vous aujourd'hui, ce matin. Qu'on puisse être des bons bergers, spirituels et pastoraux. Pas pour un gain sordide, pour gagner la vie ou le statut ou l'honneur, mais avec dévouement. Dévouement, ça veut dire quoi? Spontanément. Pas pressé ou parce que c'est obligé. Est-ce qu'on a un cœur joyeux pour servir les brebis et le troupeau du Seigneur. Encore, il continue, non comme dominant, le contraire, ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Ils étaient dominants, les gens qui ont dominé, qui ont tué le troupeau. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus et en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Waouh! Exhortation pour vous, les anciens parmi nous, ou les anciens à devenir parmi vous et parmi nous. Les modèles, et je vais lire rapidement ici, Tite 1, verset 7 jusqu'à 8, 9, car il faut qu'un évêque ou un ancien, peut-être une autre fois, on va faire, c'est quoi la différence entre un évêque et un ancien, mais pour l'instant, on peut dire il y a donc les anciens, donc les presbyteros, il y a des évêques, des dirigeants et il y a des diacres. Mais on va le laisser à côté. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Quelque chose. Qu'il ne soit ni arrogant. Wow. Ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Encore, c'est la même référence. Hein? Déshonnête. Mais qu'il soit quoi? Hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. Quelle exhortation. Est-ce que je serais capable de dire que je suis exactement comme ça? Non. Mais c'est une aspiration. Il faut que Dieu nous donne aussi la grâce d'être capable d'exhorter selon. Et on poursuit. On pourrait rester là-dessus pour le reste de la semaine même. 6. Et frères et sœurs, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible
de la gloire. Quelle perspective! C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Même Christ était allé aux croix. Avec quoi? Dans son esprit. La gloire pour son peuple. L'amour éternel pour son peuple. Un jour, ici, il dit, je serai avec eux et ils seront avec moi. Et nous allons glorifier Dieu de toute l'éternité. Est-ce que ça, c'est votre désir, les anciens parmi nous? Ou les anciens à devenir, de les amener à travers un valet de la mort. Ça, c'est notre vie ici-bas, un valet de la mort, les tribulations absolument, les souffrances. Mais il y a une joie qui nous pousse vers le futur, parce qu'on va se trouver devant le trône de l'agneau pour glorifier le Seigneur de l'éternité. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne perspective, la vraie perspective aussi qui doit s'ancrer dans nos cœurs anciens à venir ou à devenir. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est juste, le souverain pasteur paraîtra. C'est aussi important. Nous ne sommes pas les souverains. Nous sommes des sous-bergers. Il demeure toujours le souverain. Christ. Et finalement, troisièmement, finalement, en poursuivant le texte de Pierre, rapidement 5 à 11, nous y trouvons aussi des exhortations pour l'Église et pour les brebis. Alors, donc on a vu l'ancrage, on a vu les exhortations pour les anciens, etc. Aussi maintenant les brebis. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ça, c'est une chose dure, hein? Mais dès que vous aurez et vous allez avoir voté, il faut qu'on se soumise à ceux qui sont mis au-dessus de nous. Il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Même si les gens, vous voyez que, oh, ils sont des faibles, ils ne sont pas capables, ah, ils ont une histoire, bla, bla, bla. Non, leur office les donne un statut pour être honorés parmi nous. Il faut faire une distinction, pas une séparation, mais une distinction entre la personne dans l'office et l'office, le statut que Dieu a donné à cette personne. Et quand je parle ici de la chair, je parle ici en tant que représentant de mon Seigneur Jésus-Christ. Si je parle au nom de Meine Weltmann, je dois m'arrêter maintenant, tout de suite, parce que ça vaut absolument rien. Mais je suis représentant, comme des anciens sont représentants de Jésus-Christ pour le corps de Christ. Donc, dès qu'on a voté, il faut qu'on s'aligne ensemble et qu'on respecte les gens qui sont mis au-dessus de nous. Pas de question. Oui, on peut les questionner, mais on doit les respecter. Soumis, soyez soumis aux anciens. Et tous, c'est pour les tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça manque beaucoup dans nos églises. D'humilité. L'arrogance est forte, la colère est forte, l'amertume est forte. Que Dieu nous donne l'humilité, qu'on puisse s'humilier devant les uns les autres. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, les petits parmi nous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Frères et sœurs, il y a trop de choses dans ce texte, mais honnêtement, ça c'est une attitude d'humilité, mais aussi tout de suite dans la foi. Parce que Dieu peut nous mettre dans les circonstances où il nous va presque faire sentir ce qu'on mérite. on peut dire aussi. Mais dans et sous la puissante main de Dieu, on attend ce qu'il a pour nous après, dans la foi. C'est dans l'humilité et dans la foi. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que ça, ce n'est pas, et ce n'était pas le message de l'Ancien Testament déjà, Ézéchiel 34. Moi, je vais prendre soin de mes brebis. Je vais les arracher des faux bergers. Et je serai au milieu de eux comme bon berger. Wow! Et soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, c'est aussi quelque chose. Anciens parmi nous, mais sur tous les chrétiens parmi nous, j'espère que vous êtes tous les vrais chrétiens parmi nous, Dieu nous a demandé de rentrer dans un combat, dans une bataille. C'est une bataille spirituelle. S'il vous plaît, laisse les armes pour combattre le malin et pas les uns les autres. S'il vous plaît, je t'implore. Parce que le monde est en train de chercher quoi? Un sauveur. Quelqu'un qui peut les racheter et qui veut les racheter, qu'on puisse être utilisé pour le monde. Parce que même à l'intérieur de nos églises, le diable peut s'installer facilement à l'intérieur des cœurs amertumes, arrogants, pleins de colère. Et ça va détruire l'église par l'intérieur vers l'extérieur. L'église va être détruite. Luther a dit, quand le Seigneur va établir et construire une église, le diable va construire une petite chapelle à côté. Et c'est ce qu'il fait. Donc, enlève vos amertumes. Enlève votre colère. Et soyez humbles devant le Seigneur. Nous tous, c'est une imploration. Je vous implore. Parce que le champ est large. Il y a beaucoup de brebis qui cherchent encore la voie de leur berger, le bon berger. Et nous sommes appelés à proclamer cet évangile. Frères et sœurs, je vous implore, parce qu'il est fort. Il est fort, mais il est un rebelle déjà jugé. Résistez-lui avec une foi ferme. On parle à tout le monde, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Frères et sœurs, souffrir avec. Nous serons les frères et sœurs dans la souffrance pour obtenir une couronne éternelle. Est-ce que nous souffrons maintenant avec ceux qui sont persécutés en Iran, en Irak, ceux qui perdent leur vie pour le Seigneur? Ou est-ce qu'on est trop concentré sur le moi? Ça va détruire l'Église. Mais soyez-nous donc en fraternité dans la souffrance. Et finalement, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Est-ce que vous avez senti cette gloire éternelle? Ou non, ou pas encore? Après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est un peu de temps, par rapport à l'éternité, notre vie est rien. On va disparaître bientôt, vraiment bientôt. Éternité, c'est éternité, gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est une réponse exactement à ce qu'on a lu et vu en Ézéchiel 34. Il va prendre soin de lui, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, cherchons la face de Dieu dans l'humilité, la foi et dans une vie de servitude et d'amour dans un monde perdu et brisé par le péché. Et vivons ainsi du grand berger, de nos âmes. Je termine avec les versets qu'on a commencé avec. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur, l'Éternel. Amen. Seigneur, je suis, et on se trouve devant toi. Et tu connais nos cœurs, tu connais notre passé, notre présent, tu connais notre futur. Et nous t'implorons, Seigneur, que tu sondes nos cœurs pour qu'on puisse te servir. Ici, à la Bible parle, Fabreville. Comme ancien et comme brebis, selon les exhortations que tu nous as données, Seigneur, nous t'implorons de baisser ceux qui se trouvent haut et, Seigneur, chercher ceux qui sont bas pour les élever, pas à cause de leur propre capacité, mais pour ta gloire et pour ton royaume qui vienne. Accorde-nous ton esprit pour qu'on puisse aussi discerner pendant cette période de prière, pendant cette période de discernement aussi, Seigneur, qui voter pour ou non, c'est toi qui es notre directeur, c'est toi qui es notre guide. Alors, Seigneur, sois parmi nous de cette manière. Aussi, Seigneur, nous te disons et nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous avons péché contre toi et contre les uns les autres. Sois parmi nous avec un esprit d'humilité jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.